Bienvenue à cette rencontre avec Mme Parizeau-Réza, auteure du Jardin de Consolation. Je vais laisser Carole Lafont du prix France-Québec Marie-Claire Blais, ou Québec-France,
je crois. Québec-France.
Québec-France. vous adressez quelques mots.
Oui, juste un petit mot pour vous expliquer le prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais. C'est un prix qui a été créé en 2005. Qui récompense un auteur français pour son premier roman. Donc, de 2005, aujourd'hui, on est rendu à la 13e édition du prix littéraire. Le prix est géré par le Réseau Québec-France, réseau qui regroupe, je dirais, 18 associations régionales, un petit peu partout au Québec, en Abitibi-Gaspésie, Outaouais, Sherbrooke, on est un petit peu partout. Et cette année, il y avait eu 17 comités de lecture qui sont issus de ces associations qui ont participé au processus là, de nomination pour le prix littéraire, ce qui signifie à peu près 150 lecteurs. Donc, ils ont lu les trois livres finalistes, qui en ont discuté, qui en ont débattu, et chaque comité de lecture devait faire un choix entre les trois finalistes. Cette année, le choix, je pense que la première année, fut unanime. Les 17 comités de lecture ont choisi les Jardins de Consolation de Parizeau-Réza. C'est beau. Alors, Mme Réza va recevoir son prix demain, 6 avril à 17h au Salon international du Livre de Québec, par le président du Réseau Québec-France et aussi par Mme la consule de France à Québec, qui sera là. Mais d'ici là, il y a un embargo. Alors là, je vous dis que Mme Réza est la lauréate, ce qui n'était pas annoncé sur les affiches, mais il ne faut pas le dire. Entre nous, il ne faut surtout pas aller sur les réseaux sociaux jusqu'à 17h demain soir. Alors, le petit enregistrement, il faut le garder jusqu'à 17h demain soir.
Vous êtes en sûr. C'est ça.
Alors, je voudrais remercier le CRIL d'avoir invité Mme Réza à cette rencontre, à venir discuter avec vous. Puis je vous souhaite une bonne soirée.
Merci. Donc, je suis très heureuse de vous présenter, pardon, Mme Réza. Je l'ai dit tout à l'heure, énormément aimé les Jardins de Consolation. Et ça a soulevé toutes sortes de questions, donc j'ai très hâte d'en discuter avec vous. Très rapidement, parce que j'ai eu beau chercher sur Internet, il y a assez peu d'informations sur vous encore. Donc, vous avez gagné le prix Sangor 2015 avec ce roman-là, qui récompense aussi un premier roman francophone. Et sinon, tout ce que je sais, c'est que vous êtes iranienne, que votre roman, après ça, le roman, je peux en parler longtemps, mais un peu peut-être d'abord... nous parler de votre parcours, de ce qui vous a amené à l'écriture, puis après ça, on pourra très peut-être bien. Plonger dans le roman.
Eh bien, moi aussi, je suis très heureuse d'être là avec vous, déjà. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, parcours. Je remets les choses en... je suis iranienne aussi, mais je suis arrivée en France, j'avais 17 ans, donc ça fait 35 ans que je vis en France. Alors moi, c'est écrire, c'était vraiment un rêve d'enfance. À 10 ans, j'avais déjà envie d'écrire. Et puis la langue a changé. Si la langue n'avait pas changé, j'aurais écrit à 20 ans. Sans doute n'importe quoi, mais j'aurais écrit quand même à 20 ans. J'étais pas francophone, donc il a fallu du temps pour oser écrire en français. Et puis, il y a 5 ans, ma vie a un peu changé, donc j'avais un peu de temps, un peu plus de temps, et je me suis dit, tu écris maintenant, si ça ne marche pas, tu fermes cette porte, et si ça marche, tant mieux. Donc, c'est comme ça que, voilà, que j'ai écrit ce livre. Alors, pour les informations, vous en trouvez beaucoup plus en anglais, en fait, parce que le livre a été traduit en anglais, il est sorti en décembre aux États-Unis. Le titre est The Garden of Consolation, c'est exactement le même titre. Et là, en fait, le livre a eu beaucoup de succès, beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Il a été classé l'un des meilleurs livres 2016. Et puis, il y a eu beaucoup d'articles, vraiment beaucoup. En France, il y en a eu très peu, c'est vrai.
Des fois... les lecteurs ne sont pas nécessairement ceux qu'on pense qu'ils vont être.
Exactement. C'est, alors ça, c'est par contre ça, Ça, c'est la vie des livres et c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que quand le livre devient un objet, là, jusque-là, vous maîtrisez, à partir de là, ça sort de vos mains et le livre va vivre sa vie, faire son chemin, rencontrer des lecteurs et ramène des surprises à la maison.
Oui, c'est un peu comme un enfant, en fait.
Voilà, c'est comme un enfant. Ouais. Voilà, on ne sait pas trop et puis à un moment donné, hop, ça s'en va et ça revient des fois avec...
Donc, brièvement, pour vous qui ne l'avez peut-être pas encore lu, Les Jardins de Consolation relatent la vie d'abord d'un couple, Tala et Sardar. Je ne sais pas si je dis les noms.
Non, c'est très bien.
OK. Bon, ça se passe en Iran, des années 1920 jusqu'au coup d'État de 1953. Et donc, ça relate l'histoire d'amour et la vie de Tala et Sardar qui vont finir par avoir un fils, Bahram, qui, c'est ça aussi?
Oui, c'est
parfait. et donc, qui lui va, je dirais, amener le politique dans l'œuvre et aussi un peu à la maison, dans son... Lui est l'enfant du changement comparé aux parents qui sont l'incarnation, en tout cas, de ce que j'ai perçu du passé ou d'un rapport, ouais, des traditions, d'un rapport à la terre, d'un rapport à la simplicité que leur fils va transcender, puis en fait, transcender pas le bon mot, mais va amener ailleurs et à travers son éducation, à travers, donc ces deux personnes qui sont illettrées, leur fils va faire l'université, donc c'est toutes ces transformations sociales-là, mais qui sont présentées à travers le prisme de cette famille en particulier. Je me suis demandé, précisément parce qu'une des choses qui m'a frappée dans ce livre, c'est comment la grande histoire et la petite histoire ont une façon particulière de se chevaucher. La petite histoire, comme on suit un couple qui n'est pas lettré et qui n'est pas investi dans l'histoire de l'Iran directement, et souvent et longtemps en arrière-plan, parce qu'ils n'y ont pas accès et ça ne les intéresse pas. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'était l'envie d'écrire l'histoire de l'Iran ou l'envie d'écrire ce couple-là?
En fait, j'avais très envie de regarder... Alors, 1920-1953, c'est vraiment le début de la modernité en Iran. Et la rencontre, en fait, entre ce qu'on appelle la modernité, qui est un mot qui veut tout dire et rien dire, disons les pensées, la pensée occidentale, la technologie, etc., et les traditions. Donc, c'est le moment où ça se passe. Enfin, ça a commencé un tout petit peu avant, mais vraiment un tout petit peu, mais vraiment c'est là où ça se passe. Et moi, je voulais voir ça du point de vue du bas de la société. C'est-à-dire que, vous savez, les aristocrates, les nobles sont des gens lettrés dans un pays où, effectivement, à l'époque, 90% des gens étaient illettrés. Donc, eux, ils écrivent leur histoire. C'est des gens qui écrivent. C'est toujours le haut de la société, dans ces sociétés-là, qui écrivent leur histoire de leur point de vue. Et le problème... Enfin, c'est marrant parce que hier soir... il y a une dame iranienne qui a parlé un peu de certaines choses dans un rencontre. Et comme c'est eux qui ont écrit, en général, parce qu'en fait, il y avait je ferai une parenthèse, mais une dame qui parlait de la condition des femmes en Iran, parce qu'elle avait envie d'en parler, et elle disait, en Iran, il y a eu une révolution constitutionnelle en 1906. L'Iran a été le premier pays qui a eu une constitution et un parlement au Moyen-Orient, c'est en 1906, et elle disait, les femmes ont participé à cette révolution-là, le mouvement féministe a commencé à ce moment-là, etc. Sauf que, comme c'est écrit cette histoire-là par des gens du haut de la société, en fait, en réalité, il y avait 50 femmes peut-être qui le faisaient, mais on dit les femmes ont participé parce que c'est ces femmes-là qui ont écrit l'histoire. Et moi, je voulais voir tout ça du bas de la société. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Comment ça se passait pour ces gens-là qui arrivaient, qui voyaient... voilà, il y a un moment
où Tala donc se fait imposer d'enlever son voile, en fait. C'est un passage vraiment très amusant. Est-ce que je peux raconter la
anecdote? Oui, bien sûr.
Et donc, il y a une loi qui est passée, puis du jour au lendemain, les femmes qui étaient obligées de porter le chador sont obligés de ne plus le porter. Et pour beaucoup, c'est comme une barrière et une protection qui disparaît. Et en tout cas, elle refuse de l'enlever. Elle reste dans sa maison pendant 3 semaines. Puis à un moment donné, il faut qu'elle aille livrer ses yogourts parce que sinon, ils vont passer. Et elle sort, puis elle dit « OK, je peux pas sortir sans mon chador, donc je vais sortir avec, puis advienne que pourra. » Puis un agent qui essaie de lui enlever, elle l'insulte, je me souviens plus qu'est-ce qu'elle...
Oui, l'édifice se pute ou quelque chose comme ça. Excusez-moi, là, il faut le couper, mais ça, tout va bien.
Elle est fâchée, en tout cas. Elle l'insulte. Puis là, il essaie de la rattraper, mais elle court très vite. Puis là, il cherche une façon de ne pas se faire prendre. Puis sa porte de maison est barrée. Fait qu'elle enlève son chador, elle le pousse par-dessus sa clôture, puis ça saute dans ses marches. Mais là, c'est la première fois qu'elle est à l'extérieur. Puis le policier arrive, il dit « Est-ce que vous avez vu une femme en chador passer? » Puis il dit « Ah oui, elle est partie par là. » Mais c'est la première fois qu'elle passe ça, elle est dehors. Puis qu'elle a plus cette protection-là. Puis qu'elle est comme « Oh mon Dieu! Ah, » okay. C'est très, très beau, ce constat, cette découverte-là.
Oui, parce que ça aussi, par exemple, l'histoire du voile, alors c'est un truc, c'est devenu un vrai problème dans le monde. Mais c'est parce que, si vous voulez, il y a des sujets, quand on en parle en Occident, ça devient des idées cristallisées, suspendues dans un espace-temps. Qui n'est pas le leur. Donc voilà, quand on parle de voile, on a l'impression qu'il y avait des femmes occidentales qu'on a amenées en Iran et qu'on a mis le tchador sur leur tête, etc. Mais il est vrai que ces femmes-là ont porté le voile pendant des siècles. Donc l'enlever, c'est pas une affaire, une mince affaire, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Donc quand il y a un roi qui arrive en Iran et qui impose. Alors, en Turquie, on n'a pas fait ça. Et en Turquie, on a incité les femmes à ne pas le porter. Et en Iran, il suffisait, en réalité, de ce qui est arrivé en même temps, c'est-à-dire qu'il y a un roi qui arrive et qui, à la fois, modernise l'Iran, c'est-à-dire qu'il y a l'éducation obligatoire, gratuite, pour tous les enfants. Donc, il suffisait d'envoyer les filles à l'école et elles seraient sorties. Ça, c'est un traumatisme qui a vraiment marqué un tas de gens. Et c'est ces choses-là qui nous ont amené à une révolution islamique quelque part. Parce que de jour au lendemain, il signe un décret, le roi, comme quoi le voile est interdit. Et les policiers ont le droit de... Enfin, il faut déchirer, enlever de force. Et en même temps, il signe un autre décret. Il faut que les hommes s'habillent à l'européen. Il faut mettre des vestes et des chapeaux comme ci, comme ça. Et ça, ça a été un vrai problème. Il y a des femmes qui ne sont pas, ça c'est donc en 1930 à peu près, il y a des femmes qui ne sont pas sorties de leur maison pendant 10 ans. Parce que soit elles ne voulaient pas, soit les hommes leur interdisaient. Et donc j'ai essayé de me mettre dans la tête de ces femmes-là et je me suis dit, quand tu as toujours porté le voile comme ça à l'extérieur, quand tu as... À la fois, c'est quelque chose qui te cache. Voilà. Et puis, du jour au lendemain, on l'arrache et toi, tu dois aller dans la rue avec une chemise. Enfin, c'est pas...
On sent que c'est quelque chose qui enveloppe d'une certaine façon aussi. Puis, ouais. Puis c'est un peu... En fait, on sent aussi que la violence de se faire imposer de l'enlever est aussi pire, sinon pire que la violence de devoir le mettre.
De devoir le mettre. Donc, c'est... Voilà, c'est... voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait, que je voulais voir moi-même à... Voilà, à travers le regard de Tala et de son mari aussi, qui est un personnage que... Alors, les gens aiment beaucoup Tala.
Mais moi j'aime beaucoup son mari.
Voilà, moi aussi, j'aime beaucoup son mari.
Son mari qui est un homme très bon, en fait.
Oui, c'est un homme qui est bon.
Et qui est berger au départ. En fait, il reste berger.
Après, il cultive un peu les terres. Ouais, il fait les deux.
Et qui veut avoir sa propriété, donc son but dans la vie, c'est ça. Et qui, une fois que c'est fait, son fils devient la prolongation et l'amélioration de lui-même. Mais lui ne sent pas, par exemple, son fils reçoit les... c'est un tailleur, le meilleur tailleur du village ou de la ville qui lui cousse ses vêtements, alors que lui, c'est très secondaire. Puis tant que son fils est bien mis, lui est content, il n'a pas besoin d'être élégant, mais... Il y a aussi un passage qui est absolument magnifique, c'est le moment où il découvre la radio.
Ah, oui, c'est ça.
On voit toute la beauté de ce personnage qui anticipe l'arrivée de l'électricité exclusivement pour pouvoir avoir accès à la radio et à travers la radio à la musique.
Oui, à la musique et au monde. En fait, lui, il quitte son village. Le livre commence, ils viennent tous les deux d'un village qui existe et qui est vraiment le village de l'eau de rose en Iran, où il y a des plantations de roses. Et d'ailleurs, le patron de Guerlain, ça fait 20 ans qu'il y va au printemps tous les ans pour aller chercher l'eau de rose. Mais c'est un paradis perdu dans les montagnes. Et après, il décide, lui, d'aller voir le monde. Lui, il veut voir ce qu'il y a derrière les... Et donc, il va à Téhéran, il s'installe près de Téhéran. Et je pense que ce monde-là qui cherchait quelque chose de... la radio, c'est l'incarnation de ce monde, en fait. Voilà, il a trouvé l'objet qui lui permet d'avoir une communication avec le monde, mais sans être engagé, parce que la société est très, très hiérarchisée. Donc, lui, il fait pas, il sait pas lire, il sait pas lire les journaux, donc il fait pas partie de ces gens-là qui s'engagent politiquement.
Mais il veut pas non plus. Il ne pas. Le recherche, c'est pas un manque pour lui.
Non, c'est pas un manque. Lui, c'est un berger, il s'occupe des moutons, et il veut pas se tromper, il veut pas aller voter, ça, il laisse aux autres. Lui, il est bien, il a sa terre, etc. Mais après, son fils, qui est la première génération de l'école obligatoire publique, lui, il va rentrer d'un coup dans un autre univers. Lui, il va épouser quelque part la modernité, il va adhérer aux idées voilà, qui viennent de l'Europe, et lui, il va s'habiller en costume, et il va aller à l'université, et là, c'est tout un autre monde qui va souffrir d'un coup à lui, sachant que ses parents restent en même temps des gens très... très humble et des paysans.
Puis, il est aussi caractérisé par le fait que sa mère n'a pas réussi à garder ses autres enfants. Donc, lui, enfant unique dans un contexte où les familles sont quand même un peu plus nombreuses.
Voilà, c'est des familles nombreuses en général.
Donc, il est très, très, très enveloppé et protégé par sa mère parce que c'est le seul enfant. Puis après ça, moi, j'ai eu l'impression que le fait qu'il soit enfant unique le porte pendant tout le texte, en fait, parce que ses parents peuvent consacrer toutes leurs ressources à lui,
voilà.
Alors que les autres doivent séparer leurs ressources à plusieurs enfants, donc les habiller, les nourrir, l'énergie est mise seulement sur lui. Et sa mère ne vit essentiellement que pour son fils.
Pour son fils, oui.
Sa mère est un peu... J'ai toujours... Tala, elle est très superstitieuse dans le récit, elle est présentée comme ça. Elle est un peu intense aussi, quand même, dans
elle
ses...
Elle est intense, elle est très intègre, elle est très intense. Mais, alors les gens, très souvent, les gens, moi j'entends, les gens sont très étonnés par le caractère de Tala. Ils pensent que c'est une exception dans un monde iranien, parce que les femmes, on les imagine tous soumises à des maris qui leur disent... Mais en fait, non, parce qu'à l'époque... 80% des femmes iraniennes sont des paysannes, et le monde paysan n'est pas le même que le monde des villes, des cités. C'est là où les femmes sont dans les maisons avec les tchadors, etc. Quand on est dans les champs, quand il faut travailler, les femmes sont très libres. Et elle ressemble à beaucoup, beaucoup de femmes de son époque.
C'est un peu le rapport à... Les couples ressemblent plus à des équipes. Même, on le voit un peu dans toutes les couples qui sont présentés sont plus construits comme des équipes que comme un rapport de domination qui est fort.
Oui, oui. Parce qu'elle n'est pas, en fait... aujourd'hui, on nous le présente comme ça, mais en réalité, il n'y a pas ce rapport de domination. Dans les lois, c'est écrit, les femmes ne sont pas égales aux hommes dans les pays islamiques, globalement, mais dans la pratique, en tout cas en Iran, c'est surtout comme ça que ça se passe. C'est des équipes, chacun a son pouvoir. Les femmes ont beaucoup de pouvoir dans les intérieurs, vraiment beaucoup. Les hommes ont le pouvoir à l'extérieur. Enfin, plus aujourd'hui, tout ça, c'est plus vrai parce que les sociétés ont tous changé et les femmes sont beaucoup plus libres en Iran malgré la République islamique. Mais à l'époque, c'était ça. C'était une répartition des rôles et des pouvoirs à l'intérieur, à l'extérieur.
On sent aussi ces espèces de... Ce qui se passe politiquement et ce qui se passe dans les faits, c'est jamais... On sent que c'est même très, très, très différent, en fait.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en même temps, depuis depuis 100 ans, un peu plus de 100 ans, la vie en Iran est politisée. En même temps, c'est-à-dire que on ne peut pas vivre une journée sans que la politique extérieure n'a une influence sur votre vie de tous les jours. Alors par tout ce qu'on a imposé, soit d'un côté parce qu'on a imposé la modernité, soit parce qu'après on a imposé la religion, mais c'est très très lié la vie et la politique.
On sent en fait que avec le roman, on est au début de ça, oui, dans la mesure où jusqu'à temps que la radio n'est pas dans les foyers, ce qui se passe à Téhéran, tout le monde s'en fout dans les villages. C'est pas là qu'est l'enjeu. L'enjeu est dans le quotidien, dans le rapport au chef du village qui est beaucoup plus immédiat. Mais après ça, la politique est très lointaine. Tandis qu'avec l'arrivée de la radio et de l'éducation publique, j'imagine, ça change.
Oui, ça change complètement. À partir de là, effectivement, les choses sont liées. On est tout le temps... Et alors, pour répondre à votre première question, c'est que la petite histoire et la grande histoire, ce n'est pas parce que moi, j'ai voulu les mélanger. Alors, effectivement, étant donné que j'écris, en tout cas, quand j'écris, je pensais aux lecteurs français. Donc, j'ai donné un peu plus d'explications pour que les gens puissent situer les choses un peu par rapport au pays et l'histoire. Mais en réalité, petite et la grande histoire en Iran depuis 100 ans se mélangent tous les jours sans arrêt. C'est-à-dire que voilà, on a vécu, il y a eu des grands moments historiques en 100 ans en Iran et les choses sont tout le temps, se mélangent tout le temps.
On sent aussi que, en fait, les codes sociaux sont pour l'apparence beaucoup. Il y a une scène, entre autres, où Bahram, le fils, donc, perd sa virginité auprès d'une femme qui est veuve, qui a à peu près son âge, mais qui est veuve, puis lui-même est complètement déstabilisé. Il a failli se faire lyncher parce qu'il a répondu à un signe d'elle. Et en même temps, une fois à l'intérieur, les choses se passent très naturellement. Oui. C'est sitôt que la porte est ouverte, le poids de la société écrase, mais sitôt qu'on entre dans les intérieurs, les codes sont complètement différents.
Ça fait partie des particularités vraiment de la culture iranienne. Il y a une extérieur et il y a l'extérieur et l'intérieur. C'est vraiment deux mondes séparés. Bon, encore plus aujourd'hui avec la révolution islamique, parce que si on va à Téhéran et si on connaît un peu les gens. Qui vous amène dans les fêtes qui sont à l'intérieur, il se passe des choses extraordinaires avec il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a le sexe, il y a tout, mais qui se passe dans les intérieurs très fermés. Il y a des fêtes, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors il y a deux raisons à ça, c'est très compliqué, mais il y a plusieurs couches, c'est-à-dire que dans la philosophie mystique de l'Iran. Parce que l'islam de l'Iran, c'est le chiisme, et le chiisme, c'est 10% des musulmans dans le monde sont chiites. C'est très, très particulier. Et dans cet islam-là, parce que, si vous voulez, les philosophes mystiques de 11e siècle au 15e siècle ont fait rentrer dans l'islam toute la croyance d'avant l'islam, toute les spiritualités des Perses. Et dans cette philosophie-là, qui est la base du chiisme, il y a un monde visible et un monde invisible. Le Coran a un sens caché, il n'y a que les chiites qui croient à ça, et la connaissance philosophique se fait par la lecture des textes, etc., à l'extérieur, et puis avec un travail à l'intérieur, de relation avec le monde invisible. Donc il y a cette séparation de l'intérieur de soi, l'extérieur de soi. Et puis après, à travers des siècles, justement, selon les périodes, des interdits religieux, etc., la vie était toujours séparée de ce qu'on faisait à l'intérieur et à l'extérieur. Et de plus, pour l'histoire à cause du voile, les femmes, il y avait des rituels de femmes dans les intérieurs. Alors, il y a une sociologue algérienne qui m'a dit ça. Elle m'a dit que les gens, en Occident, ne se rendent pas compte que le fait qu'il y avait des réunions de femmes c'était des réunions de pouvoir. Il y avait des cercles de pouvoir de femmes qui ça se faisait dans les intérieurs avec des parce qu'il y avait des cercles de femmes qui se réunissaient. Toutes les réunions de femmes dans les intérieurs étaient aussi il y avait des complots, des réunions de pouvoir, etc., que les femmes faisaient dans les intérieurs.
Pour influencer les décisions politiques.
Les décisions politiques à l'extérieur, etc. Okay. Et donc voilà, il y a effectivement cette séparation très nette entre les intérieurs et les extérieurs.
Et dans un autre registre, qu'est-ce que ça a signifié pour vous d'écrire en français? Puis est-ce que vous avez l'impression que dans la langue, ça a ajouté une texture? Est-ce que ça a été une difficulté supplémentaire? Je sais que vous êtes ici à 17 ans, vous avez quand même eu l'occasion de...
Non, mais j'ai écrit naturellement en français parce que, en fait, même si... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je viens... Ma langue maternelle est le persan. Dans le persan, il n'y a pas les genres. Donc... si vous voulez, ma tête n'est pas faite pour travailler avec une langue où il faut à la fois penser à ce qu'on va dire et à la fois au fait d'accorder les adjectifs, le féminin, le masculin. Et même aujourd'hui, j'y arrive pas parce que je le sais. Enfin, si vous voulez, sur papier, je le sais, mais quand je parle, je m'y perds un peu. Donc ça c'est vraiment une... Quand on est francophone, c'est pas pareil parce que... très tôt, on apprend à jongler avec. Donc, c'est vrai que c'est une langue avec une autre structure. Mais en même temps, le fait que je suis arrivée en France à 17 ans fait que je me suis faite en français. C'est-à-dire que toute ma vie d'adulte, de tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai entendu, etc., ça s'est fait en français. Donc, j'écris naturellement en français, sachant que le persan, je le parle, je lis très bien, mais la langue persane pour moi, ça n'a pas évolué depuis mon âge de 17 ans. C'est-à-dire que la langue évolue dans les pays, mais moi je suis restée à cette langue-là. Donc c'est pas une langue littéraire. Je peux pas travailler en persan.
Puis ça s'adressait d'abord à des Français.
Oui, oui, oui. J'ai pensé aux Iraniens qui allaient lire le livre aussi. Il y a des clins d'œil que je fais qu'il n'y a que les Iraniens qui peuvent comprendre. Mais je m'adressais aux Français, bien sûr.
Puis, votre livre est séparé en femmes, en fait, en parties qui portent chacune, si je ne me trompe pas, le nom d'une femme.
Oui, oui, oui.
Parce qu'elles sont là. Mais elles sont rarement les personnages principaux de ces parties-là. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour cette...
En fait, c'est... Moi, je l'avais... Quand je l'ai écrit, c'était... Déjà, je me souviens plus. En fait, dans ma tête, c'était le début, le milieu, la fin de leur vie, vous voyez. Et j'avais donné des noms comme ça, plutôt techniques, au chapitre, et à un moment donné, il a fallu que en une soirée, je donne des vrais noms au chapitre, et c'est arrivé comme ça, tout, voilà, sans, il n'y a pas quelque chose de très réfléchi derrière, okay. C'est juste pour.
Mais c'est intéressant parce que justement, ça leur donne une place supplémentaire, qui vient appuyer leur présence autrement, puis on les sent plus comme finalement, justement, les guides invisibles de la vie de Sardar, mais de Bahram surtout.
Voilà, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas forcément effectivement les personnages, à part Tala, mais les femmes qui viennent après ne le sont pas. Mais en même temps, elles sont très, très importantes dans le livre, sans être les personnages...
J'ai pas l'impression qu'on peut vraiment cibler un personnage principal.
Non,
il y a Bahram, mais comme c'est surtout dans la deuxième partie.
Voilà.
Dans la première, Tala, au départ, on pense que ça va être vraiment plutôt sur elle, mais finalement, Sardar prend un peu la même place. Je regarde dans mes questions en même temps, parce que je me suis un peu... le livre montre assez bien la place, la tension de la religion et de la politique et des individus. Je me demande de quelle façon, est-ce que c'est un enjeu qui était là réellement pour les paysans? Parce qu'à la fin, dans le fond, la conclusion, ça reste que la religion est la seule chose qui parle aux gens qui sont analphabètes. Donc, est-ce que le politique a fini par prendre ça en compte? Comment tous ces morceaux-là s'accrochent?
J'ai un ami journaliste qui m'a dit... alors lui, il est pas... C'est un Iranien, c'est un vieux journaliste qui est baroï. Alors les baroïs, c'est une réforme de la religion en Iran. C'est une religion qui date de début de 20e siècle, donc c'est très récent. Mais il m'a dit, nous les Iraniens, qu'on soit communiste, athée, baroï, etc., avant tout on est chiite. Il y a une manière d'être, il y a une façon de penser chiite qu'on l'a tous, même qu'on soit religieux ou pas. C'est plutôt c'est ce que je disais, c'est une spiritualité. C'est-à-dire que même si on est athée, un Iranien, même s'il est athée, il y a quelque chose au-delà de ce qui est matériel. Il y a une manière de vivre qui est... Et dans ce sens-là, nous sommes tous religieux, même, enfin, dans cet aspect des choses, nous sommes tous des... On n'est pas des cartésiens, ça c'est sûr et certain. Vraiment pas. On n'a pas l'esprit critique, on l'a pas. On a une autre manière de voir le monde, c'est beaucoup plus mystique. Mm-hmm. Voilà. C'est dans ce sens-là, on est tous des religieux, qu'on soit politique ou pas, on l'est, on l'a quelque part. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'islam d'ailleurs, c'est pas l'islam. C'est une spiritualité qui est collée à cette terre-là, à cet endroit. Voilà, c'est ce que je disais, c'est le schisme, c'est un héritage de zoroastrisme perse qui s'est mélangé, etc. Et donc, si vous voulez, ça on l'a tous. Après, la religion qui est devenue politique au début de 20e siècle, qui est une réponse en fait à, je dirais, à la colonisation ou à l'occidentalisation, en fait, si vous voulez, quand il y a eu l'occidentalisation, quand il y a eu cette fascination pour les idées de l'Occident, ça a été forcément contre la religion. Ça aurait pu se passer autrement, mais ça ne s'est pas passé autrement. Du coup, la religion s'est politisée. Mm-hmm. Mais dans ces années-là, en tout cas dans les années 50, ce sont surtout les communistes qui sont très forts en Iran, partout, comme partout dans le monde. Mais ça ne les empêchait pas d'être religieux, c'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien être communiste, mais à la fois avoir un fond religieux en soi, comme une spiritualité, etc. Ce qui a été fatal à l'Iran et au Moyen-Orient, c'est ce coup d'État-là. C'est-à-dire que l'Iran était... Alors, l'Iran, c'est un pays où il s'est passé beaucoup de choses au XXe siècle pour la première fois au Moyen-Orient. Le Parlement, la Constitution, la nationalisation.
Alors, c'est ça, j'allais en parler de cet aspect-là aussi.
Voilà, on a eu la Constitution, le Parlement pour la première fois, le découvert du pétrole en Iran. Donc l'Iran, c'est le premier pays exportateur du pétrole au Moyen-Orient. Le premier mouvement de nationalisation du pétrole aussi, ça se passe en Iran. Et la révolution islamique, pour la première fois, c'est en Iran que ça se passe. Le côté l'islam politique, c'est en Iran que ça arrive. Mais c'est la conséquence de ce coup d'État. C'est-à-dire que le premier coup d'État que font les Américains en dehors de leur territoire, enfin, l'intervention en tant que coup d'État, ça se passe aussi en Iran. C'est l'opération Ajax en 53 qui va servir du modèle au CIA pour faire tous les coups d'État qui, après, ils font aussi bien en Asie qu'en Amérique latine, parce qu'ils se rendent compte qu'avec 50 000 dollars, on peut changer un gouvernement, qu'on n'a pas besoin d'envoyer des hommes, et que c'est possible et c'est faisable. C'est la première fois. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que entre 1941 et 1953, c'est une période, parce qu'en 1941, l'Iran est envahi par les Alliés, les Russes au nord, les Anglais au sud. Ils obligent le roi, celui qui avait écrit des décrets pour enlever le voile, etc., d'abdiquer parce qu'il s'était approché des Allemands. Et en réalité, il s'est approché des Allemands parce qu'il voulait négocier les termes de la concession du pétrole auprès des Anglais. Les Anglais lui ont rien donné, mais rien. Et donc, il s'est approché aux Allemands. Donc, il y a les Alliés qui envahissent l'Iran. Lui, il est obligé d'abdiquer. Il part. Son fils arrive au pouvoir. Il a 22 ans. Et là, les partis politiques s'ouvrent à nouveau. Et il y a un vrai... Enfin, c'est le Parlement qui a le pouvoir pendant donc 12 ans. Et vraiment, c'est le début de la démocratie en Iran. Les gens sont laïcs, ils se battent pour la laïcité, la religion n'est pas encore vraiment politisée. Et il y a un mouvement de démocratie qui commence à fonctionner. Et le coup d'État arrête tout ça. Le roi qui était parti en exil, le fils, il revient. Il ferme tous les partis politiques. Et en fait, il crée un vide entre la couronne et et le turban. Il ne reste plus rien, il ne laisse rien d'autre que la religion. Et c'est là, et il n'y a que la religion qui parle au peuple à ce moment-là.
C'est le seul outil de protestation parce qu'il reste juste ça.
Voilà, exactement. Et c'est ça qui fait que la révolution, qu'on fait une révolution d'ailleurs, parce que la révolution est en réalité, c'est pas tellement contre le Shah, mais c'est contre les Américains qui, à partir de ce coup d'État, ont énormément d'influence en Iran. Moi, je me souviens. Alors moi, je viens quand même des milieux, je disais, assez intellectuels, etc. Mais je me souviens, parce que moi, j'allais... Alors ça, c'est plus dans mon livre dans mon prochain livre, c'est les années 70.
Je me demandais s'il y allait avoir une suite à tout ça.
C'est pas la suite, mais je vais vous le raconter. Mais là, je me souviens que moi, j'allais dans les clubs privés de loisirs, entre guillemets, à Téhéran, où il y avait beaucoup d'Américains qui venaient. Moi, enfant, je sentais le mépris. C'était terrible. C'est-à-dire que les Américains arrivaient, alors c'était souvent des attachés militaires, arrivaient avec leur famille, considéraient tout le monde comme des sauvages, etc. Et encore, nous, on était dans la haute société. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas tellement de différence. Donc la révolution s'est faite contre les Américains plus que contre les régimes de Shah, mais aussi parce que le régime de Shah était l'allié des Américains. Et il n'y avait que la révolution qui pouvait faire ça. Même si, au moment de la révolution, effectivement, il y avait des groupes marxistes clandestins qui ont participé à la révolution. Il y avait quand même une société civile qui a participé à la révolution. Mais ceux qui arrivaient à mobiliser le peuple, c'était les religieux. Mm-hmm. Parce qu'il n'y avait personne d'autre.
Si c'est le seul pouvoir qui était toléré.
Voilà. Et une fois qu'il y a eu la révolution islamique en Iran, ça a donné plein d'idées à plein de gens. Alors, moi, je suis très, très contente que l'Iran a fait sa révolution islamique il y a 40 ans, parce qu'on est en période post-islamisation en Iran. De l'intérieur, on peut le sentir. Ici, on ne peut pas le sentir, parce qu'effectivement, ceux qui représentent le pays, c'est des... Ici, on appelle vulgairement les mollahs, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, mais voilà. Mais à l'intérieur de la société, on le sent très bien. Le fait que nous sommes en période post-islamisation, Le fait que ce soit les religieux qui ont fait la révolution a fait que c'est le peuple qui a pris le pouvoir, que les femmes religieuses sont sorties de leur maison, qui ont fait des études, et il n'y a que la religion qui pouvait faire ça. Que le fait qu'ils ont fait les études et qu'ils sont maintenant partout dans la société fait que le tchador est devenu une foulard pour elle aussi. C'est-à-dire qu'elles ont rencontré le monde qu'elles n'auraient pas pu rencontrer si elles restaient enfermées dans les intérieurs. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là.
Et donc, vous continuez de travailler sur ça, donc sur les décennies ultérieures.
Alors, mon prochain livre qui est sorti, en fait, ce mois-ci en France et qui va sortir le 17 avril ici, c'est qui s'appelle « Le parfum de l'innocence ». Alors, c'est un livre qui est indépendant de ce livre-là, c'est-à-dire que si on n'a pas lu, on peut très bien le lire. Mais si on a lu ce livre-là, on va retrouver les mêmes personnages, on va retrouver Bahram, on va retrouver Talor, mais c'est surtout l'histoire de la fille de Bahram. Donc c'est la génération après qui va, elle va évoluer dans un milieu intellectuel d'artistes, etc., de l'Iran de l'époque, dans les années 70. Donc, ça va s'arrêter juste avant la révolution, un mois avant.
Donc, plus proche de votre histoire immédiate.
Voilà. C'est pas du tout mon histoire, mais c'est des lieux que j'ai connus, les manières de vivre que j'ai connues, etc.
Ça m'amène à quelle sorte de recherche pour pouvoir construire un roman si précis, il a fallu faire. Est-ce que c'était beaucoup de recherches ou c'est beaucoup des témoignages que vous avez reçus
de... Non, c'est, il y a beaucoup de recherches. Même pour les deux, il y a beaucoup de recherches. Alors, moi, je suis partie de quelques anecdotes que mon père m'avait racontées sur son... Parce que là où il grandit, Bahram, dans ce quartier-là, c'est le quartier où mon père est né et il a grandi là. Moi, je suis née dans ce quartier-là aussi. Donc, je suis partie de quelques anecdotes qu'il m'avait racontées. D'ailleurs, par exemple... Quand Bahram il va voir le ministre de la cour pour lui demander une classe. En plus, ça c'est une histoire vraie. Okay. C'est exactement passé comme ça. Et ça c'est quelque chose qui est arrivé à mon père. Et après j'ai brodé autour de ça. Et dans le prochain, voilà, il y a moi dans le sens où il y a des lieux. Alors moi j'ai grandi avec mon père, donc elle a un lien avec son père qui est très proche de ce que moi j'ai vécu avec mon père. Mais après, c'est pas du tout mon histoire. Mais cela n'empêche que j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches pour celui-là encore plus, parce que l'autre, c'est des choses que je connaissais mieux. J'ai lu beaucoup de récits de voyage des Occidentaux qui sont allés en Iran à ce moment-là, dans les années 20. J'ai regardé beaucoup de photos, j'ai lu. J'ai beaucoup lu pour la partie coup d'État et les différents partis politiques, qui faisaient quoi, etc.
C'est des informations plus aussi techniques plus
voilà,
que des ambiances qui sont installées au départ. Voilà. Je pense que ça, vite comme ça, je dirais que ça fait le tour un peu de mes questions. Je ne sais pas si, je sais que Daniel aussi a lu le livre. Puis...
Bien sûr.
Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions aussi que l'entretien a soulevé, que...
Non mais moi ce qui m'avait mais c'était tout à fait très intéressant comme livre, justement pour toute cette histoire que vous avez encore explicité aujourd'hui de l'Iran qu'on méconnaît beaucoup, surtout cette période-là, dans la révolution islamique. Déjà c'est à la fois plus proche de nous mais aussi plus
médiatisé.
Voilà. Ma question, c'était pourquoi cette période-là, plus que les périodes qui suivent, mais on voit que ce n'était que le début. Du point de vue de l'écriture, peut-être, ou même en concordance avec l'histoire, il y a comme une espèce de sentiment de fatalité, j'ai l'impression, dans votre livre. Tous les personnages, sont en accord avec leur destin, parce qu'il n'y a pas d'autres avenues possibles. Tala, c'est la jeune fille qui se fait marier à 9 ans, puis... Qui suit, dans le fond, la tradition. Son mari, c'est la même chose. Il n'y a pas d'autre espoir possible, autre que leur fils, qui lui-même, après, va accéder à l'université, mais au moment où il veut faire l'équipe d'athlétisme, se fait barrer la route par un professeur qui est fâché. Et ça sent même dans l'écriture, c'est-à-dire une phrase qui ne s'emballe jamais, qui est très... je pense que tu avais utilisé le mot sèche un peu.
Oui, il y a une sèche. C'est vrai qu'il y a une sécheresse dans la prose, une efficacité peut-être aussi.
Moi, c'est peut-être le mot qui est utilisé. C'est une phrase qui ne s'emballe pas, donc une phrase qui n'a pas d'avenir non plus, dans le sens où qui est coupé court. Les descriptions sont assez. Il y en a beaucoup, mais sont assez concises à chaque fois. Donc, je ne sais pas si c'est un sentiment qui. C'est pas un sentiment qui habite les personnages nécessairement, parce qu'ils prétendent pas à mieux, à part Bahram, mais je sais pas si c'est un constat un peu sur...
Oui, je comprends.
Sur le destin iranien, en général.
Non, mais c'est... alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est... en tout cas, pendant très longtemps, c'est une société qui est très, très hiérarchisée. C'est un héritage de l'époque féodale. Donc, les gens sont à leur place, surtout pour... ça adore les talents. On est à cette place-là, on va pas changer. C'est pas, il y a pas de caste, hein, mais c'est une société très hiérarchisée. Il y a une idée de destin qui est un peu tracée globalement, mais aussi parce que ceux qui ont, j'ai connu des gens qui ont, d'ailleurs mon père par exemple. Des gens qui ont vécu le coup d'État. Et il y a une... je sais pas comment dire. Il y a chez eux, chez ces gens-là, et ça certainement m'a influencé d'ailleurs avec le discours de monsieur à la fin, vous savez, quand on parle de paranoïa orientale, il y a des raisons pour qu'il soit paranoïaque. C'est-à-dire que ça fait, en tout cas pendant un siècle, tout s'est décidé ailleurs, tout le temps. Même s'ils se sont battus, il y a ceux qui ont connu le coup d'État ont aujourd'hui, j'en ai vu, même à Paris, j'ai rencontré des gens qui ont 85 ans aujourd'hui et qui ont vécu cette période-là. Il y a ce sentiment de fatalité, qu'on ne peut rien décider, que quoi qu'on fasse, ça va se décider ailleurs, qu'il n'y a rien à faire. Alors, chaque génération en Iran vit ça constamment depuis un siècle. C'est-à-dire que, voilà, eux, ils ont fait ça, 20 ans après, c'est ce qu'ils vont faire, la révolution islamique, qu'ils vont échouer quelque part, etc., etc. Donc, ça fait partie, quelque part, cette image de la vie, ça fait partie aussi de ce que les Iraniens ressentent en général. Il y a quelque chose de fatal et qui les rend paranoïaques en même temps.
Paranoïaque, mais aussi justement dans ce discours de la fin qui est très bien mené, parce que c'est un personnage, je ne me rappelle plus exactement.
Ouais, c'est le père du copain qui apparaît juste à la fin. C'est
ça, voilà, c'est quand même.
Mais il est plus lettré.
Voilà, c'est le lettré. C'est le lettré.
Mais ouais. Bon, c'est au moment du coup d'État où il fait son laïus justement sur ce que veut dire cette impossibilité-là de changement. Ouais. Mais son constat, en fait, c'est que la société iranienne ne peut pas changer parce qu'on ne considère pas le peuple iranien.
Exactement.
C'est les intellectuels qui décident pour le reste.
Voilà, c'est ça.
Ceux qui sont analphabètes, les 80% qui, au fond, vivent selon les traditions et la mystique chiite, qui voient des signes de Dieu partout, et puis c'est ce qui mène leur vie. On ne leur demande pas leur avis à ces gens-là. Ouais.
Mais ça,
et puis lui-même, il fait comme... Il y a une prise de conscience à la fin de son discours quand il dit la bonne, par exemple, on ne lui demande pas son avis. Et là, il se rend compte que cette relation-là ne pourra jamais exister.
Oui.
Que la prise en compte des sans-parts, en fait, ne pourra jamais être transformée.
Mais ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience en écrivant ce livre et puis le prochain aussi. Je pense que ce qui t'arrive aujourd'hui au Moyen-Orient, mais globalement, pas seulement en Iran, c'est le mépris. Le mépris, c'est le pire des choses qui peut arriver. Et je pense que l'élite de tous ces pays-là, en tout cas pour l'Iran que je connais, ils ont complètement méprisé le peuple. Mais vraiment méprisé. Mais hier soir, j'étais avec un ami iranien que j'avais pas rencontré, j'avais pas revu depuis 25 ans, et on est allé dîner ensemble. Et je lui disais, enfin, on parlait justement de ça, et je lui disais que c'est pas pareil pour ma génération, parce que, si vous voulez, la génération de mon père, il savait d'où ils étaient partis, où ils voulaient aller, etc. Nous, on nous a complètement menti, c'est-à-dire que nous, on est nés, moi je suis née dans les quartiers nord de Téhéran, où tout était moderne, et on nous a fait croire que l'Iran était ça, et que ça a été comme ça depuis toujours, alors que ces quartiers sont nés avec moi. Quand le pétrole a commencé à couler, on a très vite construit partout, etc. Mais je lui disais, nous, quand on sortait de l'Iran, parce que nous, on voyageait plus en Europe l'été, moi, jusqu'à la Révolution, tous les étés, je les passais en Europe, mais on voyageait quand même en Iran aussi. Et quand on allait dans les villages ou dans les petites villes, c'était pas nos compatriotes. On avait un regard presque ethnologique sur ces gens-là. C'est très étrange. Maintenant, quand j'y pense, c'est très étrange. Personne ne nous disait... Enfin, mon père ne disait pas, ou les gens ne disaient pas, il ne faut pas les considérer. Mais c'était tellement naturel et tellement... Enfin, c'était au-delà des Iraniens avec les Iraniens, c'était l'Occident et l'Orient. Ce qui était bon, c'était l'Occident, la pensée occidentale. Tout ce qui était oriental, ou en tout cas tout ce qui était iranien, n'était pas bon. C'était pas bon. Et eux faisaient, l'élite du pays, que ce soit les gens du régime ou les gens contre le régime, mais qui faisaient partie des intellectuels du pays, donc ils étaient de gauche, ils étaient marxistes, beaucoup, vous savez, dans les années 50 à 70, tout le monde était marxiste, même si on était, on était noble ou je sais pas quoi, on était marxiste. Et donc, eux, ils faisaient partie de ce monde-là. Ils avaient... fait allégeance, on va dire. Et donc, à partir de là, le reste n'existait pas. Enfin, ça n'avait aucune importance. Et on les c'est ça, le mépris. Parce que quand vous haïssez quelqu'un, quand vous haïssez votre peuple, vous avez droit de haïr. Quand vous haïssez, vous donnez droit, le droit de réponse. Voilà. Quand vous haïssez quelqu'un, vous le considérez. Vous considérez que cette personne-là a des pensées ou des manières d'être qui sont abominables, et vous allez l'exprimer, vous allez lui permettre d'exprimer. Le mépris, vous ne considérez pas l'autre. Vous ne le considérez même pas pour le regarder. Vous lui dites, voilà, vous lui dites pas ce que tu penses. Qu'est-ce que tu penses? Et ça n'existe pas. Donc c'est ça, je pense. Vraiment, dans tout le Moyen-Orient, je pense qu'il y a un problème de ce... Et les mépriser, alors il faudrait qu'ils fassent un tremblement de terre pour qu'on les considère.
Mais ce phénomène-là, c'est intéressant parce qu'il est observable dans le livre. Baham se regarde sur ses parents, mais en même temps, Tala retourne à son village d'enfance, puis elle se regarde sur les gens qui étaient à son village d'enfance. Donc c'est pas seulement par couche sociale, c'est parce que Tala, je veux dire, elle pose sur la vie qu'elle menait enfant avant de sortir de chez elle, le même regard que Baham pose sur elle.
Alors là, je dirais que Tala, c'est plutôt une question de classe sociale. C'est le regard des classes sociales. C'est-à-dire que, quand même, en quittant le village, elle a un peu changé de... Mais c'est pas une question de... Enfin, pour moi...
C'est pas hiérarchique, oui.
Ben, je pense que...
C'est le déplacement.
C'est le déplacement plus... Oui, c'est le déplacement plus le vécu, plus qu'elle vient de la ville, plus cette parenthèse qui, voilà, dans sa... Mais c'est pas... Pour Tala, c'est pas une question d'idéologie.
Non, oui, je comprends.
Oui, mais ça reste... Mais pour Baham, c'est une question d'idéologie. C'est idéologique.
Oui, mais le phénomène reste quand même le même.
Oui, mais elle ne les méprise pas, Tala. Tala, elle n'a pas le mépris. Elle a le regard critique. Enfin, elle voit que les choses ont changé. Elle n'appartient plus à
elle
ce village.
Elle trouve qu'au contraire, rien n'a changé.
Voilà, rien n'a changé. Mais elle ne méprise pas. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, pour moi, en tout cas,
je ne sais
pas.
Oui, mais c'est vrai.
Mais Baham, oui. Mm-hmm. Baham, ses parents, il aurait voulu avoir d'autres parents. Parce que, voilà.
Il le dit clairement à la fin, quand il va voir justement le père de son ami. Et j'aurais besoin d'avoir un père qui peut m'aider à penser cette situation-là, que le mien ne peut pas le faire.
Oui, il ne peut pas le faire. Ouais. Mais il pourrait le faire, si lui... Mais il ne se le permet pas.
Mais c'est ça.
Voilà. Le père ne se le permet pas, parce que son fils est lettré, donc voilà, il y a déjà quelque chose. Et lui, il ne le considère pas pour ça.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. Pourquoi le roman... plutôt que l'histoire ou
même
le récit.
Ah, même je suis pas d'abord parce que je suis pas historienne, je me le permets pas. Enfin, de toute façon, j'ai pas écrit un. Enfin, je considère pas que j'ai écrit un roman historique non plus. C'est alors le récit parce que. Alors moi, je pourrais faire quel récit je pourrais faire moi. Je pourrais faire le récit. Moi, j'ai eu 13 ans au moment de la Révolution, donc je pourrais parler de l'après-révolution, par exemple. Mais moi, je considère profondément que c'est trop tôt pour en parler. Alors, il y a des gens qui le font, et c'est très bien qu'ils le fassent, mais je pense que parler d'après la Révolution pour des gens comme moi, soit on a une souffrance, on a été très traumatisé. Moi, je n'ai pas été traumatisé par la Révolution. J'étais marqué, mais pas traumatisé. Et qu'on a besoin d'exprimer ça, soit on a des témoignages qu'on pense qu'on doit donner tout de suite. Mais je trouve que c'est trop tôt parce que nous sommes encore habités par nos sentiments et nos ressentiments et que parler d'après la Révolution, je trouve que il faut encore 10 ans. C'est trop tôt. On n'a pas un regard d'objectif. C'est à peine, moi je le sens autour de moi, des gens qui, ça va faire bientôt 40 ans, c'est les gens autour de moi commencent, comme moi-même d'ailleurs, commence à voir que on n'était pas les gentils ou les méchants, que c'est beaucoup plus nuancé que ça, et que la révolution n'est pas tombée du ciel, c'est pas les barbares qui sont venus prendre le pays, que ça vient du pays, qu'il y a des raisons de ça, etc. Et je trouve, en tout cas pour moi, que c'est encore trop tôt. Il faut attendre un peu. J'écrirai pas tout de suite sur après la révolution.
Est-ce que ce roman-ci est une façon d'accéder à cette compréhension un peu antérieure aux, aux choses qui ont déclenché, qui ont amené à cet événement-là?
Oui, oui, c'est forcément moi, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, ce n'était pas mon objectif, mais je me rends compte qu'en le faisant, je, parce que je lis, parce que je reviens, parce que je rencontre des gens, etc., fait que pour moi, c'est plus clair aujourd'hui que quand j'ai commencé à écrire le livre. Mais sinon, c'était pour... enfin, on écrit d'abord et avant tout pour soi. C'est un besoin qui est là et qu'on écrit. Mais finalement, je voulais aussi... casser un peu ce vous savez, ce côté très désagréable, finalement, je trouve, de juger tout le temps les pays avec deux, trois indicateurs, la démocratie, la position des femmes, etc., avec des indicateurs très, très liés à l'histoire de l'Occident, en disant, voilà, ça c'est bon, vous n'êtes pas bon. Alors, je voulais un peu casser ça, montrer un peu que voilà... que les êtres, qu'en fait l'essentiel dans la vie, où que vous soyez, c'est l'amour, c'est voilà, il y a des choses très concrètes, c'est l'amour et le travail finalement, où qu'on soit, et que c'est des êtres vivants, qu'ils ont des histoires, qu'ils ont vécu des choses, et que c'est pas aussi clair et net, et que voilà, les Iraniens sont pas tous les mollahs avec les tchadors, etc., et que derrière il y a autre chose, qu'il y a 30 ans c'était pas comme, enfin il y a 50 ans, c'était pas comme ça, et qu'on est dans un passage. On est dans un passage, que ça va donner autre chose, ça vient de là, ça va aller là, et que il faut arrêter peut-être un peu de juger tout le monde comme ça, et renvoyer constamment une image négative aux gens qui va les braquer, et que voilà, il faut, si on veut vraiment dialoguer, se comprendre, il faut aussi de temps en temps envoyer une image positive, reconnaître des choses qui sont faites. Voilà.
Surtout que, en fait, parce qu'on passe par la petite histoire, l'histoire des personnages eux-mêmes pourrait se passer ailleurs aussi. Elle est liée à la politique, mais en même temps, des parents politiques qui vont avoir un enfant, qui va à l'université. Tu sais, je veux dire, c'est l'histoire de cette époque-là partout dans le monde.
Exactement. J'ai une amie qui m'a dit ça, qui m'a dit vraiment, alors pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, c'est une histoire qui aurait pu passer exactement pareil partout dans le monde, avec, disons, 10-20 ans de différence, mais voilà. Et puis, il y a une chose qui... C'est une amie qui m'a dit ça, et je trouvais que c'était juste. Les années 50, c'était encore, par rapport à notre histoire récente, c'était encore un moment où tout était possible. Vraiment, tout était possible. Partout dans le monde, tout était possible. Il n'y avait pas de fatalité par rapport à, par exemple, l'islamisation du Moyen-Orient, etc. Tout était possible. Et même en Amérique latine, d'ailleurs, si on regarde bien, c'est une époque où, voilà, c'est à partir des années 50, donc c'est le début de la guerre froide, que les choses ont changé. Mais sinon, là, tout était encore possible, et puis voilà.
J'ai l'impression que, mais là, mon histoire est très poche, mais il me semble qu'il y a quand même plus un rapport aux années 70 qu'aux années 50 pour...
Ben c'est le début de la guerre froide, c'est 53. C'est
oui, non, mais pour la question de tous les possibles... Pour l'Occident, je ne sais pas.
L'après-guerre,
oui. Oui, l'après-guerre, c'est déjà tout possible.
La révolution tranquille, je dirais que ses origines remontent vraiment...
À cette époque-là aussi, OK.
À la fin des années 40.
Mais l'histoire, c'est ça, mais ce n'est pas très loin comme phénomène, ce qui se passe au Québec, puis même, enfin, tout le bagage judéo-chrétien qui est présent, peu importe l'athéisme ou quoi que ce soit, par rapport à, justement, ce que vous disiez sur la religion chiite qui est en dessous
oui, de... Oui. Mais partout, mais en Europe, aujourd'hui, mais toute la civilisation occidentale, quelque part, s'est construite sur une religion, déjà, et qu'on voit les traces aujourd'hui. Alors, ça change, on le voit dans l'art, on le voit... Enfin, il y a deux choses, hein, d'ailleurs. Il y a le christianisme et les philosophes grecs. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux il n'y a pas longtemps. Il y a un jour, j'écoutais France Culture. Moi, je suis très radio. Et un jour en particulier, j'étais toute la journée à la maison. C'est passé il y a peut-être un mois. Et tous les gens qui sont passés, alors que ce soit des écrivains, des sociologues, des économistes, etc., tout le monde a cité un philosophe grec. Tous. D'abord, c'est parce que c'est une marque de culture, hein, on le cultivait, si on peut dire, etc. Et tous. Et là, je me suis dit, c'est quand même étonnant. C'est-à-dire que la Renaissance, on est En fait, on s'est accroché quelque part aux philosophes grecs pour sortir de la religion au moment de la Renaissance, et on ne veut plus lâcher. Ce que je veux dire, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les Grecs, pour plein de raisons, mais le monde ne s'arrête pas aux Grecs, la philosophie non plus. On est vraiment le. Je trouve que qu'aujourd'hui, il y a ça. On le voit, je le vois beaucoup, moi. C'est que, en tout cas en France. Hein,
j'aurais tendance à dire qu'au Québec, c'est peut-être d'autres choses que ça. Oui. Mais quand même.
Mais en Europe, en tout cas, je le sens beaucoup. Chez les Français aussi, qu'on est. Voilà, il y a les philosophes grecs, et puis c'est tout. Parce que bon, après, la religion, on ne veut pas trop en parler. Hein, c'est pas très. Voilà, il y a effectivement le fond. Il y a un fond religieux, mais bon, disons, les intellectuels évite de parler de la religion, même si, parce qu'on est dans un pays laïque, mais vraiment laïque. La laïcité en France, c'est très particulier aussi, parce que c'est, y a 4 pays dans le monde où dans la constitution, la laïcité est marquée. Ailleurs, on est dans la pratique, on est laïque, mais c'est pas marqué dans la constitution. Donc, le rapport à la religion, c'est pas pareil. Mais, alors, on parle pas de la religion, mais on parle des philosophes grecs. Les philosophes grecs. Bon, après les Allemands aussi, hein, mais l'origine d'abord c'est les Grecs, et puis après on vient les Allemands, bien sûr, les philosophes. Je sais très bien, mais il faut quand même un peu lâcher, un peu regarder ailleurs. Peut-être qu'il y a autre chose, peut-être qu'on peut mélanger les choses, peut-être qu'on peut faire une synthèse. Vous voyez?
Oui, est-ce que aussi, comme vous êtes beaucoup avec les Français, la question. La question française, comment c'est venu changer le regard que vous posez sur ce récit-là, le fait d'avoir vécu en fait la majorité partie de votre vie en France.
Alors, il faut dire que moi j'étais dans un monde très occidentalisé. J'étais européenne avant de vivre en Europe. Moi, je suis allée dans les écoles bilingues plutôt anglais. J'ai vécu avec de cette façon-là. Et quand je suis arrivée en France, et puis surtout que, étant donné que la France n'a pas eu un rôle politique en Iran, c'était les Anglais, les Russes, les Américains. Donc la France était neutre. Puis il y avait chez les élites du pays, les intellectuels, beaucoup d'admiration pour la France, le pays de liberté, enfin la littérature, beaucoup de choses. Donc moi j'étais très proche de la France. Après, que ça soit en France ou ailleurs, partir dans un autre pays et être étrangère, même si moi je me sens pas ni en exil ni étrangère, enfin c'est pas dans ma conception du monde ça, mais on vous le rappelle tous les jours, en fait les gens vous rappellent tous les jours. En France c'est très marqué, ça. D'ailleurs on me le disait par rapport au Québec, j'ai compris que c'était pas tout à fait ça. En France tous les jours on vous rappelle que vous êtes étranger, mais même gentiment. Mais il y a quelque chose de une séparation comme ça qui est c'est surtout ça, c'est-à-dire que moi je me sens si je devais dire géographiquement à quelle zone j'appartiens, je dirais une grande zone qui où il y a Moyen-Orient et l'Europe, parce que même historiquement à travers les siècles c'est très très lié. C'est Mésopotamie, c'est l'Europe, c'est tout ça, c'est très mélangé. Les Romains, les Perses, les Grecs, ils étaient très très mélangés. Ils se sont fait énormément de guerres, mais il y a des choses très communes. Donc voilà, j'appartiens à ça. Mais après, quand on part, quand on vient en Europe, il y a c'est là où on a envie de leur raconter ça, leur dire c'est bon, calmez-vous, il n'y a pas de stress là, c'est bon, on est étranger, on n'est pas étranger, mais bon, ça va, on peut, voilà.
On parle des mêmes choses,
il ne faut pas trop non plus exagérer. C'est surtout ça, ce n'est pas une question de racisme, hein, parce que étant iranienne déjà, femme et pas très typée, je n'ai jamais vraiment senti le racisme, ça vraiment, ce n'est pas ça, c'est... L'étranger est très complexe. Le rapport à l'étranger, c'est une relation complexe. On ne sait pas quoi faire avec l'étranger. C'est encombrant. Il faut être trop gentil. Les gens sont souvent trop gentils, vous voyez. Ou alors, on est un peu condescendant. C'est là où on se dit, je veux raconter des histoires. Je veux vous raconter des histoires. Pour un peu, pour dire qu'on n'est pas si différent que ça. Et
Puis montrer que c'est pareil un peu partout.
Finalement. Voilà, c'est ouf.
Oui. Parlant de l'étranger, vous avez dit que le roman avait eu une bonne réception aux États-Unis. Comment est-ce qu'ils l'ont lu, les Américains, ce roman-là?
Alors, en fait, moi, je pense qu'il existe une vraie lien entre les États-Unis et l'Iran, un lien conflictuel, mais il y a un lien fort. Et alors, c'était partout... il existe un autre Iran de ce qu'on a vu, ce qu'on nous a montré. Et ce qui les a beaucoup intéressés, c'est justement la petite histoire, plus que la grande histoire. Et que il y a des gens. Enfin, je sais pas comment dire.
Des normaux
en Iran. Il y a des histoires d'amour en Iran. C'était un peu ça. C'est-à-dire que ça leur a plu beaucoup par rapport à ça. Que voilà, on peut montrer autre chose que. L'axe du mal de bouche ou des choses comme ça. Dans ce sens-là, ils ont beaucoup aimé pour ça.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé?
Vous m'avez tout demandé.
Merci beaucoup d'avoir été
Merci à vous. Merci.